Salut à tous, c'est la fin de l'été, j'espère que vous êtes partis en vacances, que vous êtes tous reposés, bronzés, ou peut-être que vous êtes encore en vacances et dans ce cas-là vous avez bien de la chance. Je suis ravi de vous présenter cette seconde saison de Vlan. Vous avez dû remarquer ce podcast, il était très marketing à l'origine et puis au fur et à mesure, même si le sujet du marketing c'est un sujet qui m'intéresse et c'est mon métier, mais moi ce qui me passionne c'est plutôt les personnes. Et donc du coup ce podcast il devient depuis l'épisode 40 avec Esther Perel sur l'évolution des relations amoureuses plutôt une analyse de l'évolution de la société, parce qu'on vit une révolution industrielle et je trouve ça vraiment passionnant. Et l'évolution de la société, ça peut être des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de pensée, la relation au genre, ça peut être l'éthique, l'évolution de la médecine, de ce qu'on mange, etc., etc. Et pour ce premier épisode, je reçois Olympe de Gé. Alors Olympe de Gé, je l'avais déjà reçu sur l'épisode 50. Et c'est un sujet peut-être un peu léger, mais quand même qui est passionnant et qui touche tout le monde parce qu'on va parler de sexualité, on va parler de porno éthique, on va parler de nouveaux formats de porno, en particulier sur l'audio. Et entre-temps, d'ailleurs, elle a lancé un format audio porno sur Audible qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc je suis ravi de vous présenter cette conversation et j'espère qu'elle vous passionnera autant que moi, elle m'a intéressé. Mais bon, on va pas tout changer. Donc pour garder les bonnes habitudes, allez, Vlan, c'est parti! Donc bonjour à tous, je suis avec Olympe de Gé pour la seconde fois, parce qu'on a déjà parlé de sexualité féminine et un petit peu de porno, mais je voulais qu'on se revoie pour approfondir cette idée de porno et descendre plus en profondeur, si je peux me permettre, sur ce qu'on appelle l'éthique, ou en tout cas, moi, ce que j'appelle le slow. J'ai fait un épisode avec Tariq Krim sur le slow web, et dans cette même tendance du slow food, il y a ce qu'on peut dire le slow porn, finalement, qui est une sorte de porn plus éthique. Qu'est-ce que... Pour toi, c'est quoi un porn qui soit un slow porn, ou un porn éthique?
Pour moi, un porno plus éthique, c'est un porno qui est produit avec considération. Donc par rapport, enfin, on a tous entendu parler des horreurs de la production de porno mainstream. Donc Ovidie a fait un documentaire voilà, édifiant à ce sujet. Ce sont parfois des jeunes filles qui ont à peine 18 ans, qui sont voilà, qui vivent dans des tout petits appartements, qui font qui font des scènes à la chaîne pendant 6 mois. Bon, le porno éthique, c'est un porno qui a envie de montrer déjà du sexe consenti. Ça, c'est un peu la base. Surtout du sexe qui donne du plaisir aux performeurs. C'est un porno qui a envie de faire appel à des performeurs qui sont épanouis, qui vont être bien payés, bien traités, avant, pendant et après le tournage. Il y a aussi une partie éthique sur l'image aussi qu'on donne des femmes, des gens de couleur, de plein de... Voilà, toutes ces problématiques-là qui sont enfin, malheureusement, souvent mal mises en scène dans le porno mainstream, avec des clichés racistes, avec des clichés sexistes. Voilà, essayer de les traiter avec considération, respect, subtilité, voilà.
Mais moi, déjà, il y a un truc moi, qui me choque dans le porno, mais même dans la sexualité en général, hein, même la mienne, hein, c'est que la sexualité s'arrête au moment où le mec éjacule. Ce que je trouve ça assez, assez fou quand même. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où le mec éjacule, c'est fini. Non, c'est quand même fou.
Ouais, ce qui est d'ailleurs très dommage, même dans la vie privée.
Oui. Et du coup, c'est un peu étrange. Enfin, pourquoi
ouais,
ça s'arrête?
ouais, tout à fait. Moi, d'ailleurs, j'ai travaillé. En fait, j'ai un film qui est articulé autour d'une éjaculation féminine.
Ouais.
Donc un squirt qu'on a filmé en ultra slow motion à 1000 images secondes. Donc c'est absolument, enfin c'est incroyable de voir ça. Je pense d'ailleurs c'est la première fois que ça a été filmé, une éjaculation féminine en ultra ralenti et en macro. Et je voulais en fait que le film, donc c'est un film qui fait 10 minutes, je voulais que le film ne comprenne que cette éjaculation féminine. Et au dernier moment, la prod m'a dit, bon, vous avez pas filmé quand même une éjaculation masculine? Je suis là, si, si, on en a une. Et ils m'ont imposé le fait de la remettre dans le film, voilà, parce qu'ils voulaient que ce soit présent. Mais oui, c'est dommage qu'on se focalise pas sur les manifestations
du
plaisir féminin, même s'il est interne, il y a plein de choses qu'on peut voir. Enfin, le sexe se contracte, on pourrait essayer de filmer ça. Même les muscles, il y a beaucoup de femmes qui ont
des
chatouilles dans les
ouais.
pieds, qui ont les pieds qui se contractent. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut qu'on peut filmer dans les manifestations de l'orgasme et pas forcément d'ailleurs dans la partie génitale elle-même. Ça peut être plein de choses.
Et du coup, parce qu'en fait, tout ce que tu décris, évidemment, enfin moi, je pense que c'est nécessaire tant à l'éducation sexuelle qu'à un certain nombre de personnes qui ont envie de regarder ce genre de porno aussi. Mais ça a un prix. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que l'offre de porno mainstream, que ce soit, on pourrait citer les sites, mais il y en a un certain nombre, elle est principalement gratuite. Mmh. Et quand on parle de slow porn ou de porno éthique, il y a aussi cette idée de savoir, quand je consomme gratuit, je participe à une machine finalement qui elle-même est pas très très éthique en général.
Tout à fait. Et c'est là que c'est vraiment important de se rendre compte que si on souhaite qu'il y ait une offre de pornographie qui soit diversifiée, avec donc des regards féminins, que ce soit pas le mec stéréotypé blanc de 50 ans qui fait du porno depuis 30 ans, que ce soit pas que ces gens-là qui offrent des vidéos. Eh bien, les petits producteurs, ils ont besoin d'argent pour faire leurs films, tout simplement. Donc voilà, c'est comme quand on achète des bons produits locaux, bio, et qu'on se dit « Ah bah zut alors, ça coûte un peu plus cher que le truc de la grande surface vendu par 5 kilos ». Ça coûte un prix, mais parce que ça a été produit avec des valeurs auxquelles on peut adhérer et puis parce que ça va être quelque chose d'intéressant à consommer. On va regarder un film pornographique, mais ça va pas juste être deux personnes jetées sur un canapé pendant 30 minutes et à qui on dit va plus fort. Ouais. Ça va être un regard artistique peut-être, ou en tout cas une sensibilité particulière d'un réalisateur.
C'est un petit peu ce qu'il a essayé de faire, Gaspar Noé, c'est ça?
Pour moi, Gaspar Noé, il a fait un truc qui est salutaire et qui est que, en fait, dans le cinéma aujourd'hui, il y a quand même très peu de scènes de cul et elles sont extrêmement stéréotypées et super chiantes. Ouais. Enfin, ça manque vraiment. Tu peux avoir un film superbe et souvent quand on arrive à la scène de cul, ça manque d'inventivité, etc. Et Gaspar Noé, pour moi, il s'est dit mais quand même le sexe c'est important. Il y a beaucoup d'histoires qu'on met en scène au cinéma qui tournent quand même autour de la rencontre entre des gens, entre des alchimies sexuelles, entre des histoires de désir et tout. Et en fait, une fois qu'on est au pieu, la caméra se tourne et montre le feu dans la cheminée, ou tu vois, enfin bon, merde. Donc il s'est dit, on va filmer le sexe, on va le filmer bien. Et c'est super. Pour autant, je pense que c'est très différent de la démarche des pornographes indépendants, dans le sens où, c'est pas le même format de film. C'est une fiction. Les pornographes indépendants, ils cherchent pas à faire de la fiction, ils cherchent à faire de la bonne pornographie, c'est-à-dire à filmer le sexe de façon belle, inventive. Ça, c'est d'ailleurs aussi un aspect qui est quand même vachement important dans le porno éthique, selon moi. Au-delà du fait de comment on traite tous les gens présents sur le plateau de tournage, c'est cet engagement à montrer toute une variété de corps. Et ça c'est super important, enfin de montrer des femmes qui font 60 kilos ou qui en font 110 ou qui en font 40, qui font 1m10 ou 1m90, de toutes couleurs de peau, avec des tatouages, sans tatouages. Bon voilà, donc toute une diversité de corps féminins et de corps masculins. D'intégrer aussi des personnes en situation de handicap, parce que sans les fétichiser, des personnes qui ont une sexualité active, et également de montrer tout type de sexualité, c'est-à-dire on parlait la dernière fois du fait que la femme soit trop souvent montrée comme soumise dans le porno mainstream, mais au-delà de montrer des femmes dans des postures plus actives, plus puissantes, de montrer des sexualités qui peuvent être stigmatisées comme, le BDSM qui fait peur à beaucoup de gens, peut-être les rapports sadomasochistes et de bondage, etc. Donc de montrer tout ça, ça a été démocratisé par des films comme Fifty Shades of Grey, de montrer des pratiques qui vont jouer un petit peu avec de la douleur, avec de la contrainte. De montrer tout ce qui peut plaire à des gens qui n'osent pas forcément en parler et d'essayer de dire mais en fait c'est que ça, hein, vous savez, c'est la sexualité,
jeu, en fait, hein.
C'est un jeu, c'est du plaisir, c'est un plaisir différent de la levrette ou du missionnaire, mais c'est aussi un jeu de plaisir et c'est chouette. Donc voilà, il y a vraiment cet engagement du porno éthique à montrer quelque chose de plus vaste, de plus divers, de plus...
Et après, enfin, bon, t'as certainement pas la réponse, mais la question c'est parce que les gens consomment du bio, pas parce que, enfin, il y en a plein qui consomment du bio par la manière dont les produits sont fait, mais ils le consomment aussi. Enfin, il y en a un certain nombre qui le consomment parce que c'est bon pour leur santé. En
fait. Ouais,
donc c'est très individualiste comme manière de consommer.
Mais je pense que c'est la même chose dans le porno éthique féministe ou alternatif ou appelle-le comme tu veux. Hein. Par exemple, dans un de mes films, donc il y a une actrice qui s'appelle Heidi Switch et bah voilà, qui est une femme très imposante. Qui a des formes sublimes, voilà, c'est une femme grosse, enfin vraiment une très grosse femme, très belle aussi. Et lorsqu'elle a tourné dans mon film, elle a reçu un nombre de messages de femmes la remerciant, disant mais moi je me retrouvais dans aucun film, et là enfin bah je vois une belle femme, enfin qui fait le même type de poids que le mien, et ça me fait un bien fou, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Donc je pense que de porno éthique peut faire du bien à l'image de soi,
ouais,
et donc à son l'acceptation de son corps, etc.
Il y a un truc aussi dont on parlait ensemble, c'est le porno audio. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à envisager, et on a parlé dans l'autre épisode de la partie visuelle, en se disant que les hommes et les femmes étaient tout autant visuels les uns que les autres. Et toi, tu explores aussi le porno audio. Alors, c'est tant bien parce que c'est un podcast, donc on va pas faire un épisode tout de suite, mais... mais qu'est-ce que c'est que le porno audio et comment ça... Enfin...
Ben, en fait, je trouve que, justement, puisqu'on parlait de diversité des corps, il y a un truc qu'on essaie de montrer dans le porno éthique, il y a un truc que le porno audio offre et qui est génial, c'est que en fait, on montre plus de corps, donc le corps que tu entends dans la scène sans le voir, ça peut être dans ta tête n'importe quel corps. Et ça c'est dingue,
c'est hyper puissant, hein.
Ouais. Donc bah écoute, le porno audio, moi je m'y suis mise pour plein de raisons. Une première très pragmatique, de souplesse de production, parce que l'air de rien, la façon dont je produis mes films, donc c'est très proche de beaux clips, c'est des gros budgets, c'est des grosses équipes, donc ça prend du temps à monter, c'est beaucoup d'argent à rassembler. Le porno audio, il y a une souplesse qui est dingue et qui permet d'être plus créatif. Enfin ça explose un petit peu les barrières. Et puis en fait, je me suis dit c'est aussi créativement extrêmement intéressant de laisser le champ libre à l'imagination. J'ai pas envie de dire des consommateurs, on va dire, bon, des auditeurs, enfin en tout cas des gens qui sont en recherche de contenu pornographique, de l'audience. et ça c'est super parce que tu peux suggérer tellement de choses. Et alors un autre aspect ludique auquel je n'avais pas pensé, c'est que tu peux aussi consommer le porno audio un peu n'importe où. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'être dans ton canapé avec ton, tu vois, ton ordi ouvert, posé sur les genoux, enfin non, pas sur les genoux, enfin posé pas loin. Et
en fait, c'est pas sur les genoux.
Mais en tout cas, le porno audio, tu peux l'écouter dans ta voiture, dans les transports en commun, et ça crée un truc un peu
dissonant,
dingue. Ouais. Ouais, un peu.
C'est excitant par ça. Ça fait penser à toutes ces, tu sais, les gens qui postent des photos de gens qui sont en train de regarder du porno dans le train, qui se font en fait choper, parce qu'ils essayent de tourner leur napperme avec le miroir. Là, du coup, il est plus possible, quoi. Et c'est ça qui est. C'est vrai que c'est bon. Quand on fait un podcast, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au fait que les gens, ils ont toujours des écouteurs sur les oreilles aujourd'hui, et que finalement, avant, tu partais du principe que t'écoutais de la musique. Et aujourd'hui, finalement, tu sais pas du tout ce qu'ils sont en train d'écouter. Et c'est vrai que ça pourrait être du porno. Aujourd'hui, ça existe. Enfin, c'est une offre qui est très limitée, non ? Enfin, moi, j'ai jamais écouté
de
porno.
Ah ouais, ça existe. Ça existe très peu. Alors, en fait, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait que, quelqu'un qui est allemand et qui me disait que dans sa jeunesse, il avait accès à des contenus audio sur CD pornographiques. Alors moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Je sais qu'il y a aussi des sites de porno audio amateurs, mais enregistrés avec le téléphone comme ça sous les draps. Mais franchement, les sites, on dirait des trucs des années 90. C'est des listes d'hyperliens en disant juste mec avec un accent irlandais qui a très envie de toi. Tu vois, tu dois cliquer dessus et là, t'as un truc enregistré à l'arrache.
Ouais.
Donc il y a une offre, mais qui, je pense, est super niche. Et surtout, il n'y a pas de vraie production Voilà, enfin, c'est complètement sous-exploité, ouais. Alors qu'on peut faire des choses incroyables. Enfin, on peut jouer avec le binaural pour avoir une impression hyper immersive de quelqu'un qui est avec toi, qui passe. Le son binaural, c'est un son 3D. C'est, ouais. C'est une technologie qui est, enfin, il me semble assez simple. C'est, en fait, on enregistre au lieu d'avoir un micro, on enregistre en mettant deux micros, soit dans une tête artificielle, donc dans les oreilles d'une tête artificielle, soit dans les oreilles de quelqu'un de bien vivant. Et en fait, on enregistre avec ces deux micros. Et donc, par exemple, si moi j'avais mes deux micros dans les oreilles et que tu te mettais à te déplacer autour de moi, bah, les micros donc enregistreraient ça. Et les personnes qui réécoutent auraient cette impression comme ça de 360, de 3D, que tu es en train de tourner autour d'eux. Et donc ça, pour le porno, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, tu peux vraiment créer une situation très immersive où si l'auditeur ferme les yeux, il a l'impression que quelqu'un s'approche de lui, s'éloigne, les fleurs et derrière son épaule, lui mord la nuque. Enfin voilà, tu peux jouer des trucs voilà.
C'est même plus immersif. Puissant finalement que... Ça peut être plus puissant que le format vidéo finalement, non? Enfin, j'ai la sensation que, parce que du coup, ton imaginaire, je pense que, alors ça, c'est moi qui parle, mais je crois que regarder du porno, c'est aussi une forme de fainéantise intellectuelle. C'est-à-dire que t'as même pas envie d'essayer d'inventer quoi que ce soit. C'est tellement plus simple de regarder un porno, comme ça, du coup, ça t'excite, et du coup, t'as pas besoin de réfléchir à essayer d'imaginer une scène ou quoi que ce soit. Tandis que là, c'est hyper immersif, donc naturellement, tu te remets sauf à être vierge, et même si t'es vierge, j'imagine que tu dois pouvoir te projeter dans une situation, soit que tu fantasmes, soit une ancienne situation avec une partenaire que tu as déjà connue, ouais. Un partenaire que tu as déjà connu.
En fait, quand tu parles du porno avec des images, j'écoutais récemment en fait une émission où une sexologue s'exprimait et elle racontait en fait que le conseil qu'elle donnait, donc elle conseillait aux hommes qui avaient des difficultés érectiles par exemple de se masturber et notamment de regarder du porno, mais elle leur disait attention, vous regardez. Ensuite, vous refermez votre ordinateur et vous refaites le film dans votre tête. Et pour elle, c'était... et pendant ce temps, vous vous masturbez. Mais vous ne vous masturbez pas devant le film. Et pour elle, c'était une façon, en fait, c'était une gymnastique de l'imaginaire érotique. Et moi, ça, je trouve ça très intéressant, justement, cette histoire de commencer à s'approprier quelque chose que tu as vu et de l'emmener ailleurs. Parce que du coup, si tu te rejoues le film, tu vas pouvoir ajouter un personnage, se dire, ouais. En fait, la nana, je préférerais qu'elle soit comme ça, etc. Et ben le porno audio, c'est ça aussi. On te suggère des choses et ça muscle ton imaginaire érotique. Tu te fais, ah, mais cet homme, mais comment est-ce qu'il est, enfin, ouais. Comment est-ce que je l'imagine? Ah non, mais là, avec le son qu'il a fait, je pense qu'il est plutôt comme ça, etc. Et du coup, tu vas te créer des personnages de fantasmes, et c'est important de cultiver notre imaginaire.
Bien sûr.
Par rapport au fait de juste manger comme ça des contenus porno tout prêts, prédigérés, de petite durée, etc., qui te sollicitent très peu au final.
Ouais, parce qu'effectivement, en général, tu te masturbes en même temps que tu le regardes.
Bah,
c'est rare que tu le regardes et que tu te masturbes après. Je pense qu'il y a très peu de gens qui font ça. Mais effectivement, je pense que comme on dit aux enfants d'ailleurs, enfin pas pour le porno évidemment, mais l'imaginaire est essentiel. Enfin, tu vois, il faut le travailler au maximum. C'est pour ça qu'on invite les enfants à lire, parce que c'est comme ça que tu développes ton imaginaire.
Ouais.
Et son imaginaire, en fait, à tout âge, tu dois le développer. Donc,
moi, c'est marrant parce que mes premiers émois et mon premier accès à des contenus érotiques, c'était la littérature. Il y avait j'avais un bouquin de nouvelles érotiques du 18e siècle. Franchement, ça rigolait pas du tout. Hein. C'était vraiment porno, avec plein d'histoires de curés et tout. Ouais, c'était super bien. Donc, moi, mes premiers émois, ça a vraiment été autour de l'écriture. Donc, je pense aussi, très sincèrement, qu'il y a un vrai truc à développer de beaux pornos écrits, mais pas du roman. Hein. Ça pourrait être des nouvelles, etc. Mais en tout cas, l'audio va dans la même direction. Mmh. Voilà, de laisser la place à l'imagination.
Ouais. Ouais, il y a peut-être aussi un ras-le-bol de la vidéo. Enfin, finalement, il y a tellement d'offres finalement que...
Et puis tu sais, je suis en train de me dire que c'est aussi une façon d'enregistrer le sexe qui n'est pas exploré. C'est-à-dire qu'en fait, le sexe, donc, il est très filmé, mais en fait, sur les tournages de films porno, il n'y a rien qui est plus négligé que la production du son.
Ah, c'est sûr.
Et en fait, du coup, on connaît peu les sons du sexe. Mmh. Et d'ailleurs, on parlait de Gaspard Noé là tout à l'heure. Et il y a un film, un de ces films qui m'a vraiment touchée, c'est Into the Void, où il y a, alors bon, pas grand chose à voir, c'est pas une scène de sexe, c'est une scène de naissance. Et en fait, c'est une naissance du point de vue du nourrisson. Donc il sort du ventre de sa mère et qu'il voit tout flou, donc l'image est complètement floue. Par contre, il y a un travail sur le son qui est dingue. On entend le cœur de sa mère, on entend son cœur à lui, enfin, c'est tous ces sons comme ça internes. Et ça, je me suis dit, mais ça, pour du porno, enfin, du porno. Ou du porno audio, mais c'est fabuleux parce que les sons du sexe, c'est un vrai territoire inexploré.
Ouais. D'ailleurs, tu sais, il y a un truc qui a été exploré dans le son du sexe, mais de manière horrible, c'était le viol de Monica Bellucci dans ce film
Irréversible.
Irréversible. Et tu sais, on disait, il y a la majorité des gens qui partaient parce que le son était tellement, tu voyais rien finalement, mais le son était tellement immersif, c'était horrible comme scène, en fait.
Ah ben, faudrait que je revoie le film parce que je t'avoue que bon, je l'ai un peu. Ouais, je l'ai vu il y a longtemps, mais c'est pas vraiment le genre de film auquel t'as envie de revenir.
Non, mais en fait, tu regarderas. Et le son est incroyable. C'est que du son de la scène. T'entends les craquements, c'est horrible. Et ça te projette vachement plus dans la réalité de ce qu'est un viol plutôt que de le voir. En fait, c'est très étrange, mais le son, c'est que c'est très immersif parce que tu peux te mettre à la place, comme tu vois pas la personne, ni l'agresseur, ni l'agressé. C'est dans un tunnel, il fait noir. Et moi, je me souviens, tu vois, ça fait longtemps que je l'ai vu, évidemment, mais je me souviens bien de cette scène pour ça.
Mais en fait, en plus, je pense qu'on entend tout le temps notre corps. En fait, on est tout le temps conscient des sons qu'on fait, etc. Donc, en fait, même s'ils sont. Enfin, je pense que si tu fais un porno audio avec des sons sexuels, tu sais, tu sauras tout de suite ce dont il s'agit. Enfin, c'est très évocateur.
Ouais,
on n'y prête pas attention, mais inconsciemment, on sait exactement ce dont il s'agit et les images mentales suivent directement. Ouais. Donc, c'est très puissant, je pense, en évocation.
Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan.
Mm-hmm.
Alors, je sais que la dernière fois. Bah oui. Je te repose la question malgré tout. À qui ou à quoi tu claquerais la porte? Bon, je sais que la dernière fois, t'as répondu à rien. Donc,
bah, toujours rien. J'en ai bien peur.
Tu veux pas claquer
la porte? Et surtout pas à refaire un autre podcast avec toi.
Donc, tu laisses les portes toutes ouvertes.
Ouais, exactement.
Ok, super. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.